La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire que les satellites pouvaient observer l'eau dans mon verre. C'est quoi cette histoire ?
Au CNES, celle qui sait, c'est Nicole Madon, en charge du développement de services dans le domaine de l'environnement.
Oui, allô ?
Allô, Nicole ?
Oui, bonjour, c'est moi.
Peux-tu me dire quel est l'apport du spatial en ce qui concerne l'eau potable ?
Les satellites ne vont pas répondre sur la qualité de l'eau, mais par contre, les satellites vont pouvoir répondre sur l'environnement et la qualité de l'environnement ou les pressions qui existent autour d'une source d'eau potable.
Tu aurais des exemples de réalisation ?
On a supporté un projet là, qui s'est déroulé avec Danone. Danone a la concession sur la gestion de sources d'eau minérale, notamment à Evian, et cette étude a été menée grâce aux images satellites sur plusieurs années pour voir effectivement quelle était la progression des pressions agricoles et périurbaines sur l'environnement de cette source. Alors un autre exemple de contexte environnemental différent, c'était au Chili autour de mines de cuivre. Les décideurs locaux veulent exploiter une mine qui se trouve à proximité d'un parc national dans lequel il y a effectivement une source d'eau minérale. Et donc l'étude a permis, grâce aux images, de voir quel serait l'impact de l'exploitation de la mine. D'abord, une mine, ça a besoin de beaucoup d'eau. Et ensuite, ça déverse des déchets. Et avec les images, on a pu voir la circulation le long du bassin versant et comment la source et les petits ruisseaux et tout seraient pollués par les déchets de la mine.
Allez, encore un petit exemple.
Le troisième exemple, effectivement, se situe en Indonésie, dans une zone de densité de population très très forte, donc avec un besoin en alimentation en eau très très fort. Et là, les images ont permis, grâce à la modélisation de la circulation des flux de la source, d'estimer les pompages pirates qui se font au pied de la source.
Comment vois-tu l'avenir du suivi des ressources en eau ?
À l'échelle planétaire, le problème de la ressource en eau va se faire de plus en plus crucial. Et on voit bien qu'il y a des répartitions inégales. Ce qui est absolument important, c'est de pouvoir imaginer que cette ressource en eau soit gérée d'une façon planétaire à travers un observatoire mondial de l'eau qui permettrait un partage plus équilibré de cette ressource. Et pour ça, il faut avoir une information qui soit reconnue homogène, cohérente, fiable. Et c'est l'objet du satellite SWOT qui, grâce à son altimètre encore plus performant que les précédents, va permettre de mesurer les hauteurs d'eau des fleuves, des grands lacs, des retenues de barrages, des réservoirs, et donc d'avoir une estimation de la ressource en eau planétaire beaucoup plus fine et sur laquelle on peut commencer à bâtir des politiques publiques. SWOT est prévu pour 2019.
Merci, Nicole Madon.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens. Titan. 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 Il est des astres qui portent bien leur nom, et Titan est de ceux-là. Inspiré par les géants mythiques nés de l'union du ciel et de la terre, ce nom va en effet comme un gant à cette lune de Saturne, de loin la plus grande de toutes. Avec ses 5150 km de diamètre, Titan se paie même le luxe d'être plus grand qu'une planète, la modeste Mercure. Mais c'est surtout l'atmosphère de Titan qui, dès la fin du XXe siècle, a suscité la curiosité des chercheurs. Passant dans les parages en 1980, la sonde Voyager a décelé dans l'épaisse atmosphère de Titan d'intrigants éléments organiques qui auraient bien pu former les briques du vivant. C'est sûr, Titan valait le détour. Mais il faudra attendre 25 ans pour que ce grand détour devienne enfin réalité. Le 14 janvier 2005, une sonde européenne bardée de capteurs, Huygens, du nom du savant hollandais qui découvrit la lune géante, entame un titanesque plongeon dans son atmosphère. Il se termine triomphalement quelques heures plus tard avec la première carte postale du sol de Titan. Tout au long de la descente, l'émotion des scientifiques qui voient les données arriver est immense. L'histoire s'écrit en direct, en provenance d'une sonde spatiale située à 1,2 milliard de kilomètres de la Terre. Depuis, la sonde Cassini, qui portait Huygens sur son dos, n'a pas cessé de mitrailler Titan, étudiant en détail ses lacs d'hydrocarbures et ses nuages de méthane. Récemment, un lac éphémère semblable à ceux que l'on rencontre sur Terre, dans les régions arides, y a même été observé. Il n'y a pas à dire, Titan, c'est juste géant.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
L'eau de tous les rêves. Au crépuscule du XVIIIe siècle, son parrain n'avait pas craint d'affirmer « J'ai scruté l'espace plus loin que personne avant moi ». Qui aurait alors osé contredire William Herschel, l'astronome anglais, découvreur de la planète Uranus en 1781. Le télescope qui porte aujourd'hui son nom, après 3 ans de mission à plus d'1,5 million de kilomètres de la Terre, mériterait pareil compliment. En effet, le plus grand télescope spatial dédié à l'astronomie dans le domaine spectral de l'infrarouge et du submillimétrique, lancé le 14 mai 2009, a d'ores et déjà offert une riche moisson d'observations à la communauté scientifique, comme l'ont reconnu les 200 chercheurs réunis à Grenoble en mars dernier. À l'honneur de cette rencontre, l'eau. Y a-t-il de l'eau dans le cosmos ? Y a-t-il de l'eau dans le système solaire ailleurs que sur Terre ? D'où vient l'eau présente sur Terre ? Autant de questions qui, loin d'exciter la seule curiosité des astronomes et des géophysiciens, ne manque pas d'intéresser les terriens que nous sommes, chaque jour plus conscients que l'eau n'est rien d'autre que le sang de la Terre, un sang nourricier et précieux, sans lequel la vie telle que nous la connaissons sur notre planète serait impossible. Le plus étonnant, sans doute, est que, sur Terre comme dans l'espace, l'eau ne manque pas. Océanique, jusqu'à faire de notre Terre une planète bleue, elle est détectée par les astronomes au sein même des pouponnières d'étoiles ou encore dans les jeunes systèmes planétaires, parfois sous la forme de gigantesques réservoirs de comètes glacées. L'eau est partout. Et cependant, à l'instar des vaisseaux du désert qui franchissent d'immenses étendues pour rallier de rares et précieuses oasis, les vaisseaux de l'espace, quant à eux, épaulés par les télescopes, en traquent la moindre trace cosmique. Mystérieuse et fascinante substance, l'eau est crainte lorsque ses colères et ses excès lui donnent un caractère masculin. L'eau est désirée lorsqu'elle se fait douce, nourricière et féminine. L'être humain y aspire, en rêve comme d'une promesse, et s'en effraie. Il la conserve, la partage avec parcimonie et s'en protège. Il y discerne, sinon l'une des sources, du moins l'une des conditions essentielles de l'émergence et de la survie des formes vivantes. Mais il contemple, dans son paisible écoulement, celui inéluctable du temps et l'annonce de sa propre mort. « L'être voué à l'eau, écrivait Gaston Bachelard, est un être en vertige. » Rien de tout cela, du microcosme au macrocosme, du pratique au symbolique, ne doit être écarté, ignoré, pour soutenir les efforts visant à empêcher le déclenchement d'une guerre de l'eau quelque part dans le monde. Le Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Marseille en mars dernier a voulu faire preuve d'optimisme en s'intitulant, non sans humour, « Le temps des solutions ». Celles-ci, nous nous en doutons, font nécessairement appel à des techniques et à des politiques à la fois globales et locales. Sur Terre, comme dans le ciel, une goutte peut faire déborder un vase. J'aime à penser que les satellites qui, aujourd'hui, sont mis au service des victimes des colères hydrologiques que sont les inondations ou les tsunamis, peuvent aussi et pourront, mieux encore demain, nous aider à gérer l'eau dont nous, les terriens, avons besoin. L'eau de tous nos rêves, l'eau du ciel comme l'eau de la terre.
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.